Et sans transition, je reçois notre invité Alain Finkielkraut. Bonjour.
Bonjour,
vous êtes philosophe, vous êtes également mon collègue sur France Culture puisque vous animez l'émission Réplique les samedis de 9h à 10h. Vous publiez En terrain miné avec Elisabeth de Fontenay, édité chez Stock. J'ai dit sans transition, mais finalement en 77, soit il y a 40 ans, Alain Finkielkraut, vous avez publié Le nouveau désordre amoureux. Qu'est-ce qui a changé depuis? Rappelez-nous d'abord ce que disait ce livre sur les relations amoureuses qu'incarne à sa manière Hugues Hefner.
Hugues Hefner, est-ce qu'il incarne les relations amoureuses?
J'ai dit à sa manière.
À sa manière, oui, mais moi, j'ai jamais été insensible aux photos de femmes nues dans Playboy. Quand j'étais très jeune, au bord de l'adolescence, j'avais un ami dont la mère achetait Cinémonde. Et dans Cinémonde, les femmes et les actrices ou les starlettes étaient notamment sur la couverture très décolletées, très très décolletées. C'était mes premiers émois sexuels, si vous voulez. Donc quand j'ai vu apparaître Playboy, j'étais, si j'ose dire, plutôt client. Mais Le nouveau désordre amoureux, c'est tout autre chose. C'est dans la vague des années 70, un moment où cependant, j'ai commencé à me sentir à l'étroit dans l'idée que tout est politique. Je trouvais ça réducteur. Il me semblait que la réalité du désir et de l'amour était plus complexe. Et c'est cette discordance, déjà, avec l'esprit du temps, de la libération sexuelle, qui nous a conduit, Pascal Bruckner et moi, à écrire Le nouveau désordre amoureux. Et notamment, il y a dans Le nouveau désordre amoureux, une manière de mettre à égalité l'amour et le désir, alors que on pensait que le désir, c'était l'infrastructure, en quelque sorte, la vérité de l'amour. L'amour, c'était le sentiment avec ce qu'il pouvait avoir d'idéal et de sublimé, mais il fallait en revenir à la libido. Nous essayons de montrer que c'était un peu plus complexe que ça.
Et alors le combat, il a été perdu, gagné en partie, et rétrospectivement, comment jugez-vous?
C'était pas tout à fait un combat, c'est plutôt un combat contre le combat, contre l'idée que tout est combat. Disons que le livre a été bien accueilli, mais votre question est très intéressante parce que nous faisions aussi un éloge de la différence des sexes. C'était une manière de dire, vous polarisé sur l'orgasme, on disait Wilhelm Reich, etc., ce grand moment fusionnel, où nous disions d'abord la beauté de l'amour, ce n'est pas la fusion, c'est peut-être une certaine séparation qui se découvre, une dualité insurmontable des êtres, au niveau du désir et au niveau du sentiment. D'où un hymne, si vous voulez, à la différence des sexes. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec la thèse sur le genre, un livre comme celui-là serait moins bien accueilli que dans les années 70.
On va voir en tout cas comment va être accueilli En terrain miné. C'est une conversation avec une autre philosophe, Elisabeth de Fontenay. Et vous parlez notamment de la question du genre. Vous écrivez « La galanterie procède d'une connivence sur le fait que les femmes plaisent et qu'il est licite et même recommandé de leur rendre hommage ». Ce type d'assertion ne plaît pas du tout à Elisabeth de Fontenay, à votre correspondante. Vous vous engueulez à ce sujet et à d'autres sujets. Est-ce que vous maintenez vos propos alors même qu'Elisabeth de Fontenay n'est pas là, l'infidèle?
Oui, bien sûr, mais je ne maintiens pas ces propos contraires. Je comprends que certaines féministes, à un moment donné, aient pu être exaspérées par la galanterie, parce que la galanterie est née à un moment où les femmes étaient sous tutelle. Donc, leur rendre hommage, alors qu'elles subissent ce qu'on appelle aujourd'hui la domination masculine, ça pouvait avoir quelque chose de pénible, voire, pour certaines, de scandaleux. Mais nous ne sommes plus dans la même situation. L'émancipation a eu lieu. Les femmes, aujourd'hui, sont des sujets à part entière. Dès lors, l'hommage de la galanterie n'a plus tout à fait le même sens. C'est une manière de dire, vous êtes des sujets à part entière, vous avez gagné votre liberté, c'est très bien, mais vous restez à nos yeux encore des femmes, et par la galanterie, nous tenons, en quelque sorte, à vous le faire savoir.
Il y a malgré tout de nombreux sujets, de nombreux domaines, Alain Finkielkraut, où cette égalité reste à conquérir. Le monde du travail, d'ailleurs, vous en parlez.
Ça, je n'en suis pas sûr, si vous voulez. Je n'en suis pas sûr, parce que y a un certain nombre de mantras pour nous dire que la perpétuation masculine se perpétue, comme si certaines féministes, pas toutes, je dis même un petit nombre, voulaient cumuler les avantages de la liberté et les bénéfices symboliques de l'oppression. L'inégalité salariale. Vous devez savoir, Guillaume Erner, que depuis 1983, c'est un délit pénal. Donc, si vous embauchez un homme et une femme avec un traitement de salaire différent, eh bien, vous vous retrouvez devant les prud'hommes, voire, et souvent, en correctionnel. Simplement, les parcours sont différents, car les hommes peuvent vouloir continuer leur carrière et les femmes, pour élever leurs enfants, peuvent se mettre en disponibilité, choisir un temps partiel ou ne pas travailler le mercredi. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, une inégalité naît, car l'expérience compte. Alors on peut le regretter, dire que le moment viendra où les hommes, où le partage des tâches sera totalement égal, où les hommes et les femmes, même sur la question des enfants, d'élever les enfants, seront interchangeables. C'est possible, certains le souhaitent, moi je ne suis pas sûr que l'émancipation ultime ce soit l'indifférenciation des hommes et des femmes. Mais une révolution extraordinaire a eu lieu avec la conquête des droits pour les femmes, et c'est inouï, cette révolution. Aujourd'hui, le patronyme est facultatif. Aujourd'hui, avec la procréation médicalement assistée, le père, si vous voulez, peut ne pas exister, si j'ose dire, dans la filiation même. Donc, la disparition de l'homme est en train de devenir un droit de l'homme. Procréation médicalement assistée pour tous. Alors, de grâce, qu'on arrête de nous parler du maintien du patriarcat. Le patriarcat est derrière nous.
On va reparler de ce changement, et d'ailleurs du changement en tant que tel, mais il y a un sujet important dans ce livre, En terrain miné, un sujet autour de l'éducation, et justement, cette semaine, Michel Lussault, président du Conseil supérieur des programmes, a annoncé sa démission. Il l'a annoncé en expliquant qu'il était en quelque sorte la victime d'une idéologie ou d'une conception de l'école à laquelle vous n'êtes pas étranger. Alain Finkielkraut, on écoute Michel Lussault.
Une partie de la gauche a été défaite culturellement autour de ce duel que je vais essayer de présenter très rapidement. D'un côté, ceux qui ont réussi à crédibiliser l'idée qu'une école démocratique était nécessairement une école de faible qualité, était nécessairement une école égalitariste, était nécessairement une école qui sacrifiait un certain nombre d'enseignements fondamentaux.
Ça, c'est Jean-Michel Blanquer.
C'est Jean-Michel Blanquer, c'est une bonne partie de la presse et des médias, c'est la couverture de Causeur, de Valeurs Actuelles, et pour tous ces commentateurs, la loi de refondation de l'école lancée par Vincent Peillon était en quelque sorte le parachèvement de décennies d'errements, et il fallait revenir à une école traditionnelle. C'est une clientèle politique. Et de l'autre côté, il y a ceux qui estime qu'on peut très bien conjuguer démocratisation et qualité. Et je pense que cette bataille culturelle-là, elle est devant nous.
Michel Lussault, président du Conseil supérieur des programmes, au micro de Nicolas Demorand. Y a-t-il une ligne Finkielkraut qui est en harmonie avec Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de l'Éducation, contre une autre ligne, la gauche pédagogique, pourrait-on dire?
Je trouve très choquant que Michel Lussault prennent prétexte des interviews données par le ministre à Causeur ainsi qu'à Valeurs Actuelles pour laisser entendre que les débats actuels sur l'école se résument à une confrontation entre la gauche qu'il représente et la droite, voire l'extrême droite, étant donné la réputation sulfureuse de ces deux journaux. Le collectif Sauver les Lettres, si vous voulez, n'est pas un ramassis de profs, rances, réac, voire fachos. Ce sont des enseignants catastrophés par des réformes successives qui ont marginalisé la part de la littérature à l'école et qui ont transformé ce qui reste en une espèce de salmigondie où justement la littérature elle-même disparaissait au profit de la rhétorique de l'argumentation. Et d'ailleurs, François Dubet, l'un des grands défenseurs de l'école des réformes dont Lussault a été lui-même un artisan,
le sociologue François Dubet
a dit dans une interview à l'Obs que bon, il fallait pas trop s'agacer des déclarations de Jean-Michel Blanquer. Certes, il veut rendre l'apprentissage des fables de La Fontaine obligatoire, mais, ajoutait le sociologue, si ça peut calmer Valeurs Actuelles, comment le lui reprocher ? Cette phrase était extraordinaire. Elle tend à dire aujourd'hui que la littérature, le patrimoine littéraire, est un cadeau fait à l'extrême droite. Voilà où nous en sommes arrivés. Et cela remonte à longtemps, si vous voulez, cela remonte à la critique adressée par Pierre Bourdieu à l'éducation nationale, à l'enseignement français dont les héritiers. Il a constaté que ceux qui accèdent à la culture par droit de naissance sont avantagés par rapport aux autres à l'école. Et l'institution a été tellement frappée, traumatisée par cette critique, que elle a décidé, si vous voulez, en quelque sorte d'écarter la culture générale de l'enseignement, précisément pour ne pas accentuer le désavantage dont auraient à souffrir les enfants des milieux modestes.
Mais alors, à l'origine, le constat, il n'était pas uniquement le constat de Pierre Bourdieu, il était aussi le constat de Raymond Boudon, qui était un sociologue de l'autre bord, pour le dire vraiment en une phrase, plutôt un sociologue ancré à droite. Là où, évidemment, il y avait divergence, c'était sur l'analyse de ces inégalités et sur la manière d'y remédier. Que proposez-vous par rapport à ça? Puisque je ne pense pas, sauf si je me trompe à l'infinitiel croûte, que vous remettiez en cause le fait que le système scolaire en France produit trop d'inégalités.
Oui, mais justement, d'où cela vient-il ? D'où cela vient-il ? Je suis moi-même un bénéficiaire de l'égalité des chances, n'étant pas un héritier. Je suis un enfant de parents immigrés de Pologne qui n'ont pas pu faire leurs études pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas besoin de m'étendre. Donc, je dois tout à l'école. Mais aujourd'hui, l'égalitarisme a tué l'égalité des chances. Parce que, d'abord, en effet, comme je le dis, la culture a été marginalisée. Et ensuite, on a accueilli les élèves les plus faibles dans les classes plus avancées, ensuite, en révisant ensuite les exigences à la baisse pour se régler sur leurs capacités. Le niveau s'est effondré. Que s'est-il passé ? Eh bien, les parents qui ont les moyens ou qui ont les connaissances nécessaires contournent la carte scolaire ou mettent leurs enfants dans l'enseignement privé, car ils ne veulent pas que ceux-ci soient les victimes du désastre. Au bout du compte, les inégalités s'aggravent. Avant cette démocratisation tant vantée par Michel Lussault de l'enseignement, il y avait 29% d'élèves dans les grandes écoles, dans les quatre grandes écoles françaises, 29% d'élèves issus de milieux modestes. Il n'y en avait plus que 9% au début des années 2000. C'est un immense recul, et précisément de ce recul il faut tenir compte, et il faut et je l'ai dit un jour dans une émission avec Michel Lussault, qui a été scandalisé puisqu'il l'a répété sur France Inter. Je l'ai dit, on a oublié que la sélection était une grande conquête républicaine. On a instauré la sélection parce que, précisément, pour répondre à la cooptation par la bourgeoisie de ses propres éléments. Aujourd'hui, on a supprimé la sélection dans l'enseignement secondaire, ce qui a transformé l'université en abattoir et ce qui défavorise ceux-là même au nom desquels on a opéré cette suppression.
Mais alors le problème, Alain Finkielkraut, le problème, c'est qu'il faut savoir désormais comment sélectionner. L'argument de Bourdieu qui consistait à dire, finalement, en sélectionnant sur la culture générale, par exemple, eh bien, on va apprendre aux poissons à nager, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des gens qui, de par leur naissance, baignent dans un milieu où la culture générale est présente, avec des parents qui lisent, ou en tout cas qui incitent leurs enfants à lire. Et donc, il vaut mieux sélectionner sur d'autres manières. Et c'est la raison pour laquelle les mathématiques, à l'époque, étaient perçues comme étant plus égalitaires. Est-ce que vous ne trouvez pas, finalement, qu'aujourd'hui, cet échec de l'égalitarisme à la française, il repose sur de mauvais critères de sélection?
Je ne crois pas, je ne dirais pas cela. Et puis tout de même, on parle beaucoup de vivre ensemble. Je crois que si les Français, quelle que soit leur origine, habitaient mieux leur langue, car aujourd'hui ils ne l'habitent plus, le français transformé en moyen de communication. S'ils connaissaient mieux leur classique, eh bien, la vie en France serait plus douce et plus facile. Il ne s'agit pas simplement de sélection, il s'agit de savoir quel est notre patrimoine commun. Pourquoi faut-il absolument faire accéder une majorité d'enfants au chef-d'œuvre de notre patrimoine, tout simplement parce qu'ils en valent la peine, parce qu'ils élargissent l'esprit, parce qu'ils apprennent la nuance, parce qu'ils nous rendent plus subtils et plus intelligents. Et sur cela, sur le rôle des humanités, il ne faut absolument pas transiger.
Mais est-ce que vous pensez que Michel Lussou était contre cela? Le problème, c'est le moyen d'y parvenir. On a reproché, par exemple, à cet homme d'avoir été l'homme du prédicat, et cela a fait une nouvelle querelle à la française. Est-ce qu'il y a vraiment chez lui une hostilité à la culture?
Alors, c'est pas une querelle à la française. Remplacé par ce mot de prédicat, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, c'est vraiment en finir avec toutes les subtilités que nous apprenait la grammaire et l'analyse grammaticale et l'analyse logique. Et je cite un extrait du programme de la fin de collège tel qu'il est établi par le Conseil supérieur des programmes que présidait Michel Lussou. Quels sont les objectifs assignés aux classes de français? Se chercher, se construire, vivre en société, participer à la société, regarder le monde, inventer des mondes, agir sur le monde. Où voyez-vous la littérature? Elle n'est pas là. Elle a disparu.
On en reparle aux environs de 8h20, Alain Finkielkraut. En terrain miné, c'est cet ouvrage que vous publiez avec Elisabeth de Fontenay, un échange épistolaire. Il est 8h sur France Culture.